Notre étude de la parole ce matin porte sur un baptême, un baptême en quelque sorte, un baptême dans l'Ancien Testament. Il s'agit de quelqu'un qui était plongé, immergé dans les eaux et qui ensuite est ressorti vivant, une image de la résurrection. Donc il s'agit de Jonas, mais il vaut mieux être baptisé comme Sophie que comme Jonas. Alors, ça fait quelques mois que nous étudions ces livres à la fin de l'Ancien Testament, ces petits prophètes. Et nous voici à ce petit prophète Jonas. Mais le livre de Jonas est bien différent des autres petits prophètes. Dans les autres, on trouve des oracles du jugement, des messages de condamnation, peu d'action, peu d'histoire, plutôt des discours de jugement, des appels à la repentance envers les nations, envers la nation d'Israël, la nation de Juda et les nations aux alentours. Très bien, mais dans ce livre, qui est condamné? Qui est reprochable? Qui doit changer d'attitude et de comportement? Qui doit repentir vraiment? On pourrait dire les Ninivites. Oui, mais la vraie réponse, c'est Jonas. C'est le prophète lui-même qui doit subir une transformation. C'est le prophète lui-même qui est visé dans cette histoire. C'est le prophète de l'Éternel qui doit changer et revoir toute sa conception de Dieu. Dans ce livre, ce qui est étonnant, les méchants sont plutôt bons, et le bon, Jonas, il a des choses à revoir sérieusement. Alors si le prophète lui-même doit changer, quelque part ça doit nous interpeller tous, puisque peut-être nous avons les mêmes problèmes, les mêmes attitudes que Jonas. Alors est-ce que Jonas, finalement, est-ce qu'il a changé d'attitude? Est-ce qu'il a connu une espèce de repentance? La fin du livre laisse la question en suspens. On vient de lire le chapitre 4. Jonas n'est pas en bonne forme. La dernière fois qu'on l'entend parler, il dit « Je fais bien de m'irriter ». Dieu pose une dernière question et on ne sait pas la réponse. On ne sait pas ce que Jonas pense de tout ça finalement. Mais on a de très bonnes raisons de croire que Jonas a quand même vu la lumière, qu'il a pu changer, puisque on a cette histoire, et il y a des détails dans cette histoire qui ne peuvent que venir de Jonas lui-même. Alors, c'est lui qui a livré cette histoire, qui l'a racontée. Est-ce qu'il l'a racontée à quelqu'un qui l'a écrit? Est-ce que c'est lui-même l'écrivain? En tout cas, pour qu'il écrive cette histoire, pour qu'il raconte cette histoire, c'est qu'il a compris et il a pu changer. Donc lui, souvent on prend cette histoire, on l'enseigne aux enfants dans les écoles dimanche, on prend cette histoire pour dire que la désobéissance est une mauvaise idée. Ça c'est vrai, mais le cœur, la raison d'être de ce livre, c'est la grande leçon, c'est de nous faire découvrir quelque chose sur Dieu, que sa compassion dépasse les bornes, que son amour, sa grâce est bien plus grande qu'on l'imagine. Et c'est ça la leçon que Jonas devait apprendre. Alors, Jonas avait quelques défauts, avait ses défauts, mais il était un excellent écrivain. Si c'est bien lui qui a écrit ce livre, ce petit livre est très bien écrit, c'est un joyau littéraire, et il y a une structure très claire, il y a une maîtrise des mots qui est très intéressante. Par exemple, la structure, tout le monde peut le suivre, c'est très bien construit. Premier chapitre, c'est l'appel de Jonas. Deuxième chapitre, c'est la prière de Jonas. Troisième chapitre, c'est un deuxième appel de Jonas. Et le dernier chapitre, c'est une deuxième prière de Jonas. Donc, appel et prière. Et on arrive à suivre assez bien. Il y a des parallèles. Ou bien dans le choix des mots et des expressions, parfois c'est bien choisi. Juste un exemple, dans le premier chapitre, on a vu plusieurs versets parlent de Jonas qui descend. D'abord, il descend à Jaffa, c'est la ville portuaire, il descend à Jaffa, ensuite il descend dans la cale du bateau, et enfin dans sa prière, il dit « Je suis descendu jusqu'aux racines de la montagne et jusqu'au fond de la mer ». Et donc ce jeu de mots montre qu'effectivement le péché est une descente qui conduit à la mort, il descend jusqu'à être très mal. Donc tout ça, on va essayer de creuser cette histoire dans la manière que c'est écrit pour revoir le message principal de Jonas. Et pour ça, on peut faire quelques comparaisons que ce livre nous invite à faire fortement, je pense. Donc nous allons voir ce matin Jonas et les païens, ensuite Jonas et la nature, et enfin Jonas et l'autre dormeur dans le bateau. Jonas et les païens. Dans cette histoire, il y a plusieurs acteurs, et les principaux, c'est Jonas et puis des païens idolâtres qu'il va côtoyer. Les païens idolâtres, en chapitre 1, avec qui il va parler, ce sont les marins dans le bateau. Et puis dans chapitre 3, les païens idolâtres qu'il côtoie, ce sont les Ninivites. Et on est appelé dans ce livre à faire quelques comparaisons entre Jonas et ses païens. Et ce qui force le comble de l'ironie, c'est que dans ce livre, les païens sont bien disposés et Jonas, le prophète, est mal disposé. Vous avez vu ça, certainement. Regardez d'abord les marins. Alors, ces marins, on est bien d'accord, ce ne sont pas des protestants évangéliques qui ont un culte personnel tous les jours, qui aiment le Seigneur et tout ça. Ils ne sont même pas monothéistes. Chacun prie son Dieu dans le bateau quand ils ont peur. D'ailleurs, les marins, en général, ne sont pas connus pour leur piété et leur sainteté. Mais dans chapitre 1, on ne peut que apprécier ces marins. D'abord, ils posent des questions pertinentes à Jonas. Mais d'où viens-tu? Pourquoi tu fais ça, hein? Dans chapitre 1, ce sont les incroyants qui appellent le croyant à prier. C'est le comble. Les incroyants, les infidèles, les idolâtres disent, conseillent à Jonas, mais prie ton Dieu, c'est tourne-toi vers Dieu. Et quand Jonas dit ce qu'il faut faire, en verset 12, il va falloir me jeter à la mer, tout ça, on voit que les marins ne veulent pas en arriver là. Alors ils font des efforts, même ils vont encore ramer, parce qu'ils ne veulent pas faire ça, ils ne veulent pas que Jonas périsse. Et en désespoir de cause, ils disent en verset 14, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Donc, on a dans ce livre, on a des païens qui ne veulent pas que des gens périssent. On a des païens qui ne veulent pas que Jonas périsse. Mais Jonas, lui, il est indifférent que les païens périssent. C'est le comble. Les païens idolâtres ont à cœur que Jonas ne périsse pas. Et Jonas n'a pas à cœur que les païens périssent. Et en cela, c'est là où il doit se repentir. C'est là où il doit découvrir plus sur Dieu. Parce que juste à présent, Jonas n'a pas complètement saisi le projet de Dieu, le cœur de Dieu, la grâce de Dieu et l'étendue de sa grâce qui va jusqu'aux païens. Ou bien regardez les deux prières de Jonas. On n'a pas lu la prière du chapitre 2, mais c'est une des plus belles prières de la Bible. C'est une lecture qui convient parfaitement au culte. On avait déjà lu dans les premières parties du culte. Cette prière, si vous avez besoin de vous rapprocher de Dieu ce matin, prenez les paroles de Jonas dans cette prière. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Donc, Jonas reconnaît, t'es loin, que Dieu l'a sauvé, que Dieu l'a restauré. Il a vécu une espèce de mort dans cette jeté dans la mer, mais là, il comprend que Dieu peut le sauver. Il se tourne vraiment vers Dieu. Il est reconnaissant que Dieu a envoyé ce poisson pour lui restaurer, le sauver la vie. Et il termine sa prière, verset 10. « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Ça, c'est peut-être la phrase clé de toute la Bible. C'est le meilleur résumé de toute la Bible. Le salut vient de l'Éternel. Jonas l'affirme, il l'a vécu. Donc, merci Seigneur, gloire à Dieu, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sorti des ténèbres. Alléluia. Dans le chapitre suivant, quand Dieu accorde le même salut aux Ninivites, il vient de dire, le salut vient de l'Éternel, c'est merveilleux d'être sauvé. Dieu accorde le même salut aux Ninivites, et là, la prière de Jonas est tout autre. Chapitre 4, c'est aussi une conversation, une prière à Dieu.
Et là, chapitre 4, verset 2, il implora l'Éternel et lui dit, mais cette fois-ci c'est très différent du chapitre 2, il dit, ah, ça c'est pas bien. Il était mal, Jonas était mal, il était irrité. D'ailleurs, là encore, il y a un jeu de mots, parce que dans le grec, dans l'hébreu, c'est tous le même mot, tous la même racine, entre irritation, mal, déplaisir. Donc, Dieu vient de se repentir du mal qu'il va faire aux Ninivites, et cela met Jonas à mal, irrité, et puis, donc Dieu lui demande, fais-tu bien de t'irriter, c'est-à-dire, fais-tu bien d'être mal. Et la réponse de Jonas, c'est, oui, parce que tu fais mal de leur faire du bien. Hein, tu sais, tu fais mal de leur faire du bien, donc je fais bien d'être mal. Ça, c'est comme ça qu'il s'exprime. Il était irrité parce que Dieu n'était plus irrité avec les Ninivites. Il était mal parce que Dieu ne va plus envoyer le mal sur les Ninivites. Alors là, il n'est pas bien. Et il explique, il dit, ça c'est justement ce que je voulais éviter, c'est que les Ninivites se repentent et que tu les graciais parce que je savais que tu étais capable de le faire et c'est ce que je voulais éviter. C'est la raison que je ne voulais pas aller au début, c'est parce que je savais que tu allais les pardonner. Alors d'où vient cette attitude chez Jonas? Pourquoi une telle pensée, un tel comportement? Il faut un peu le comprendre, les Ninivites étaient les grands ennemis d'Israël, c'était l'ennemi qui les embêtait. Donc si Dieu faisait du bien aux Ninivites, ça mettait en mal, ça pouvait mettre en mal Israël et Jonas. Jonas avait l'habitude de prophétiser sur la prospérité d'Israël et sur les victoires sur les Assyriens, sur les Ninivites. On a ça, ce détail, dans 2 Rois, chapitre 14. Jonas, à un moment, il prophétise qu'ils vont pouvoir agrandir leur territoire, reprendre les territoires sur les Assyriens, sur les Ninivites. Donc, il a l'habitude de prophétiser du bien sur Israël et du mal sur les Ninivites. Et le voilà, il se trouve un instrument pour le bien des Ninivites. Et ça, il ne supporte pas. Si on avait proposé à Jonas, Jonas, est-ce que tu veux prier pour le salut des Ninivites? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit non. Parce que si je prie ça, Dieu risque d'exaucer ma prière et c'est la dernière chose que j'aimerais qu'il fasse. Avons-nous parfois une réticence à prier pour quelque chose parce qu'on sait très bien que Dieu est capable de faire du bien et on ne veut pas ça. Mais ça va plus loin chez Jonas parce qu'il va même dire, Éternel, quand il pense à ces païens graciés, il va dire, ça c'est trop. Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. En voyant Dieu faire ça, pour Jonas, la vie n'a plus de sens. Donc on voit que cette pensée, cette conception qu'il a, cette pensée qu'il a, et c'est une pensée viscérale, c'est une pensée avec laquelle il définit son identité, et que Dieu maintenant est en train de dépasser les bornes ou les normes avec lesquelles il se donnait, là où Dieu peut agir avec salut et grâce, et là où il ne devrait pas. Jonas est troublé. Comment comprendre cette pensée de Jonas que pour lui la vie n'a même plus de sens si Dieu a agi ainsi envers les Ninivites, envers les païens? Eh bien, c'est que Jonas fonctionnait comme beaucoup des hommes, beaucoup d'entre nous, beaucoup des religions. Jonas fonctionnait avec un schéma où il y a nous et puis il y a eux. Et nous, c'est très bien que Dieu bénisse, que Dieu donne la salut, que Dieu exauce les prières, mais eux, non, quand même pas. Vous voyez, il y a des fidèles et des infidèles, il y a des sages et des bons, il y a des sages et des méchants. Jonas, c'était bien, il y a le peuple de Dieu, Israël, et puis il y avait eux, les ennemis, les méchants, les païens, les idolâtres. Et ce schéma est confortable, ce schéma est rassurant, parce que ça permet de se mettre du côté des bons et de se sentir meilleur, de se sentir en sécurité. Et Jonas, sa sécurité venait de ce que voilà, son peuple était béni et les autres étaient plutôt condamnés. Ils n'étaient pas bénis. Mais arrive la grâce de Dieu, cette grâce qui dépasse les bornes, cette compassion qui surprend. Et là, il est déstabilisé. C'est vrai, quand on est face à la vraie grâce, c'est déstabilisant.
Si Dieu graciait et bénissait celui qui nous voulait du mal, si Dieu graciait et bénissait celui qu'on n'aime pas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire plusieurs choses. Ça veut dire je vais devoir passer l'éternité avec lui. Ha! Mince! Ça veut dire qu'on va être assis à la même table parfois, et pour l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour nous distinguer. Il n'y aura plus rien pour montrer que je suis meilleur que lui, parce que je sais au fond que je suis meilleur que lui. Lui, c'est un païen, idolâtre, loin, méchant. Moi, je suis bien. Mais si Dieu gracie, lui aussi, il nous met ensemble dans sa famille, dans son peuple, là, comment les gens vont discerner qu'il y a des biens et des moins biens? Vous voyez, pour beaucoup, c'est panique à mort quand la grâce de Dieu agit vraiment là où on ne s'attend pas. Chez Jonas, il voulait bien que Dieu soit un Dieu de grâce et de salut, mais pas à ce point. Un Dieu de grâce et de salut pour moi, oui, d'accord, mais pas pour eux. Un Dieu de salut et de grâce pour nous, ça c'est très bien, mais eux là, ah non, quand même pas. Mais finalement, il n'avait pas encore compris toute la personne de Dieu, le caractère de Dieu, le cœur de Dieu, ce Dieu qui veut sauver, comme nous avons déjà dit à plusieurs reprises ce matin. Et c'est ça le comble de ce livre, quand on compare Jonas et les païens, on voit les païens sont idolâtres, les marins le sont, ils prient chacun leur Dieu, mais eux, ils se repentent de ça, ils se tournent vers le vrai Dieu, l'éternel, et ils terminent chapitre 1 dans la crainte, en lui faisant des vœux. Les Ninivites sont idolâtres à bloc, ils se repentent de l'idolâtrie et se tournent vers Dieu. On pourrait dire Jonas, il est bien, c'est le prophète de l'éternel, mais lui-même, finalement, il s'est fait un Dieu à son image, il s'était fait un Dieu à sa convenance, un Dieu qui pouvait maîtriser, un Dieu qui pouvait comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle un Dieu fait à notre image? Ça s'appelle une idole. Jonas aussi doit être délivré des idoles. Et Dieu veut lui rappeler que voilà, moi j'ai une grande compassion pour une ville comme Ninive. Je veux sauver, je veux gracier, je veux pitié. Il termine le livre en verset 11 de chapitre 4. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. Cette dernière question, cette dernière remarque à Jonas, c'est comme une pique, c'est comme une flèche qu'il lance à Jonas. Et on aimerait bien savoir comment Jonas va répondre, comment il va prendre cette dernière réponse de Dieu. Jusqu'à là, il dialogue. Dieu fait une dernière remarque, une pique, une flèche qui vise le cœur de Jonas, et puis Jonas disparaît, il n'est plus là. Mais cette pique, cette remarque, cette flèche est toujours en plein vol, et se dirige vers qui? Vers nous, vers celui qui lit ce livre, et c'est à nous de répondre pour nous-mêmes cette question, est-ce que Dieu a droit d'avoir compassion, pitié envers ceux-là, envers eux, envers celui-là, celle-là? Dieu veut montrer sa compassion. Ensuite, nous pouvons comparer Jonas et la nature, les éléments de la nature, les créatures. Ce qu'on remarque dans ce livre, c'est que toutes les personnes et toutes les choses, tous les objets de la nature obéissent promptement à Dieu et que Jonas, le prophète de l'Éternel, n'obéit pas promptement à Dieu. Toutes les choses et toutes les personnes dans ce livre obéissent à Dieu, sauf Jonas. Voilà l'ironie de la chose. Et là, vous avez vu qu'en chapitre 1, Dieu fait venir un vent impétueux. Chapitre 1, Dieu fait revenir le calme. Chapitre 2, Dieu fait venir un poisson. Chapitre 4, Dieu fait venir une plante. Chapitre 4, Dieu fait venir un ver pour manger la plante. À chapitre 4 encore, Dieu fait venir un vent chaud de l'Orient pour souffler. Chaque fois, c'est la même expression. Dieu fait venir, ou Dieu fait souffler, ou Dieu fait pousser, Dieu fait croître, Dieu fait venir. Et jusque-là, tout va bien. Dieu fait venir la chose vient. Mais quand il s'agit de faire venir son prophète à Ninive, là, c'est plus compliqué. Vous avez bien compris que quand il dit « va à Ninive », Jonas prit vraiment la direction opposée. Hein. Si c'était ici, c'est comme si Dieu va à Paris et on va à Madrid. C'est-à-dire, on ne peut pas dire « j'étais en chemin » plus ou moins. Non. C'est, si tu prends un TGV à Toulouse pour Madrid, tu n'es pas en route pour Paris. C'était ce que Jonas faisait. Donc il y avait une opposition à la volonté de Dieu, alors que tout le reste, et la nature, et les hommes, les marins et les Ninivites, eux, ils répondent promptement à la voix de Dieu. Autre petite ironie, c'est que même les animaux ninivois, les animaux ninivites, participent à la repentance. C'est curieux, on ne pense pas aux animaux qui doivent se repentir, ils ne sont pas vraiment coupables, mais le roi de Ninive, tellement il veut que la repentance soit totale, il décrète que les hommes et les bêtes se désolent, soient couverts de sacs et de cendres. Ça c'est versets 7 et 8 du chapitre 3. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Alors évidemment, les bêtes ne peuvent pas crier à force avec Dieu, mais c'était pour montrer dans cette ville à quel point la repentance voulait être totale, complète. Est-ce que la repentance de Jonas était totale et complète? C'est vrai qu'il a fait une belle prière en chapitre 2. Et c'est vrai qu'il, deuxième appel d'aller à Ninive, il est allé. Dans quelle attitude? On a des doutes sur la sincérité de son désir d'obéir à Dieu. Hein. On peut toujours dire oui, 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 je me suis repenti, c'est bon maintenant. Mais si dans le cœur il y a cette réticence, cette amertume, quelque part la repentance n'est pas complète, n'est-ce pas? Et Ninive, une repentance totale allant jusqu'aux animaux, mais pas Jonas. Et puis Dieu veut encore utiliser la nature en chapitre 4 pour faire une dernière leçon à Jonas, cette fois-ci avec une plante, un ricin et un ver. Vous voyez, il y a encore des parallèles en chapitre 4, verset 1, le fait que Dieu gracie, pardonne les Ninivites, cela déplut fort à Jonas et fut irrité. Et puis verset 6, l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Donc on a Jonas ici très irrité et puis quelques versets plus tard très joyeux. Mais ça ne va pas. De quoi il est très irrité? De ce que Dieu gracie les Ninivites. De quoi il est très joyeux? De ce qu'il a une petite plante qui lui donne de l'ombre. C'est pas équilibré. C'est démesuré. Quand Dieu a ôté le mal, l'irritation qu'il avait contre les Ninivites, Jonas était mécontent. Quand Dieu a ôté l'irritation provoquée par le soleil pour Jonas, il est très content. Vous voyez, Dieu ôte l'irritation sur les Ninivites, son irritation sur les Ninivites, Jonas n'est pas content. Dieu ôte l'irritation simple de Jonas, sa tête, il était embêté par le soleil, Jonas trouve ça, c'est merveilleux. Et là, Dieu va faire une leçon. Il dit, Jonas, cette petite plante t'a donné beaucoup de joie. Tu ne voulais pas que cette plante périsse. Tu étais irrité quand cette plante périsse. Et moi, je ne peux pas, moi, avoir la joie que les Ninivites ne périssent pas. Alors, Dieu termine peut-être avec une dernière ironie pour Jonas. Il dit, d'accord, tu voulais sauver une plante. Tu ne voulais pas sauver les Ninivites. Est-ce qu'on peut quand même sauver les animaux de Ninive? Si j'épargne Ninive, au moins les animaux, ça te va, les animaux? Puisqu'il est tellement intéressé par la plante et par les hommes. Mais en fait, Dieu veut, c'est pour montrer à quel point Dieu veut sauver. Dieu s'intéresse à beaucoup plus que la nature, il s'intéresse aux âmes éternelles. Et encore notre monde, parfois, on n'a pas nos priorités en place. On va s'occuper de la nature, on va s'occuper des animaux et du sort éternel de l'homme. Qu'en est-il? Mais Dieu n'est pas comme ça. Il s'occupe de l'ensemble de sa création. Il est bon envers tous, mais il veut surtout sauver, gracier les hommes qui vont vivre éternellement. Donc on a comparé Jonas et les païens, une ironie frappante. On a comparé Jonas et la nature, encore des ironies de parallèle à voir. Et enfin, nous allons comparer Jonas et l'autre dormeur dans le bateau. Jonas ne pouvait pas le savoir complètement à son époque, mais toute cette histoire nous invite à une autre comparaison. Parce qu'un jour, on lit ça dans les évangiles, en Marc chapitre 4, un jour Jésus était, lui, dans une barque, et aussi il s'endormit profondément. Et cette barque aussi était dans une tempête. Et puis les marins, les pêcheurs, viennent voir Jésus, et lui réveillent avec quasiment les mêmes questions, le même ton de reproche. « Mais ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » Fait quelque chose. Jésus s'est réveillé. Et grâce à lui, la mer s'est calmée peu après. Et dans les deux cas, les marins étaient plus remplis de frayeur et de crainte, presque plus après que la mer soit calmée qu'avant, parce qu'ils ont reconnu une puissance vraie, une puissance grande dans la personne de Dieu. Donc deux cas très similaires, quelqu'un qui dort dans le bateau, quelqu'un qui se réveille, la tempête qui se calme. Et puis on dit, ouais, la seule différence, c'est que là, ils n'ont pas jeté Jésus dans la mer. Ils ont dû jeter Jonas dans la mer pour que ça se calme, mais Jésus, on ne lui a pas jeté dans la mer. Ah, ce n'était que partie remise. Parce que Jésus, il est venu aussi pour ça. Il est venu pour être jeté dans la tempête, il est venu jeté dans la colère de Dieu pour nous sauver. Et tout comme Jonas, ils ont dû sacrifier un homme pour que tout l'équipage ait la vie sauve. De la même manière, l'évangile dit qu'on a sacrifié un homme, Jésus, pour que le monde entier puisse avoir accès à la vie sauve, à la vie éternelle. Et là, la différence entre Jésus et Jonas, c'est que Jésus n'a pas été jeté dans la tempête, dans le jugement, à cause de sa désobéissance à lui, mais à cause des nôtres. Jonas était jeté pour sa propre faute. Jésus l'a été jeté pour nous, pour notre faute. Mais de la même manière que Jonas est descendu à Jaffa, descendu dans la cale du bateau, descendu jusqu'à l'abîme, Jésus, lui, il a fait une descente bien plus grande. Il a quitté son ciel. Il est descendu jusqu'à dans une crèche. Et ensuite, il est descendu jusqu'à dans une croix. Et ensuite, jusqu'à dans un tombeau pour ensuite être ressuscité, victorieux. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il est sorti vivant, comme Jonas. La mort l'a vomi. La mort a dû vomir Jésus, si vous voulez. Et c'est ainsi qu'il devient pour nous un sauveur. Jonas n'a pas tant aimé les Ninivites, il voulait plutôt qu'ils périssent, mais Jésus, lui, il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut vient de l'Éternel, vous savez, avec ça, vous pouvez en faire un prénom hébreu. Le salut vient de l'Éternel, ces deux petits mots en hébreu, vous les mettez ensemble, ça donne Jésus. Le salut vient de l'Éternel. Jésus, c'est le salut qui vient de l'Éternel. Pour nous. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est différent à Jonas en cela, c'est que lui, il aime montrer la compassion. Jésus s'est réjoui des pécheurs qui reviennent à lui. Jésus, c'était un plaisir pour lui de tendre la grâce et la compassion aux gens que les pharisiens notamment disent non, ça c'est eux, ils n'ont pas le droit. Ça, non, non, non. Nous, il y a nous, il y a eux. Nous, c'est très bien que Dieu nous bénisse, mais pas eux. Si Dieu bénissait eux, ça nous laisse où, nous? Mais Jésus, c'était une joie, c'était une fête pour lui de tendre l'amour et la grâce envers eux. Et puis quand quelqu'un revient à lui, quand quelqu'un se repent, il ne boude pas, il ne se fâche pas, il dit... Oh, avec tout ce qu'il a fait, quand même pas. Non, lui, il fait la fête. Il a raconté ses paraboles sur les objets perdus qui reviennent. Une pièce, une brebis, le fils prodigue. Et dans ces paraboles, l'idée c'est que chaque fois il y a de la joie quand on trouve, quand on ramène l'objet perdu, il y a de la joie. Et pour Dieu, il y a de la joie quand on ramène le pécheur perdu. Jésus a même dit, il y a la joie devant les anges quand un pécheur revient. D'ailleurs, il ne dit pas que les anges ont de la joie, c'est certainement le cas, mais il y a la joie devant les anges. C'est qui devant les anges? C'est quoi devant les anges? Eh bien, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui est rempli de joie quand les pécheurs se convertissent. Dieu aime faire grâce, c'est son activité préférée, ce qui le distingue bien de Jonas. Les pharisiens auraient bien fait de revoir l'histoire de Jonas parce que c'était l'histoire qui dévoilait leur cœur lorsqu'ils étaient devant Jésus. Et Jésus a dû leur dire, ça c'est en Matthieu 12, une génération méchante et adultère demande un signe, un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut dans 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alors pour nous, c'est toute l'invitation à saisir la grâce de Dieu, à se réjouir de sa compassion quand il exerce dans notre vie et dans la vie de notre entourage, de nos ennemis, de nos amis. Si les Ninivites se sont revenus à Dieu à cause d'un prédicateur à contre-cœur, un prédicateur qui a fait son travail un peu à moitié, si les Ninivites sont revenus à Dieu parce qu'un poisson l'a vomi sur la plage, eh bien, combien plus nous devons venir à Dieu, revenir à Dieu, être prompts à se repentir à cause de Jésus qui, lui, ne fait rien à contre-cœur. Que lui, c'est une joie de nous annoncer le salut, de nous livrer le salut. Lui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est encore mieux qu'un poisson. C'est la mort, il est revenu après 3 jours. Et voilà, on a tout l'accueil de la part de Dieu, de saisir sa grâce et son amour encore ce matin.